voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques et écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus d'être simplement spectateur d'un système qui nous démange, mais de devenir un des acteurs du changement. Dans cette émission, La Voix du Kaizen donne la parole à Bernard Bertrand, un amoureux du monde vivant, agriculteur et écrivain. Dans une recherche de cohérence, Bernard a créé une maison d'édition pour partager les valeurs qui lui semblent être justes.
Je me suis retrouvé éditeur un petit peu par hasard. Je suis plutôt paysan, auteur, écrivain et éditeur par la force des choses pour pouvoir diffuser par moi-même mes propres écrits puisque j'ai appliqué à l'édition ce qui m'a réussi en agriculture, c'est-à-dire la vente directe, les circuits courts, éliminer tous les intermédiaires.
Là, j'ai sous les yeux un nouveau regard sur la nature. Donc on va peut-être essayer de voir quel est ce regard. Ça me fait penser à cette phrase de Gandhi qui parle de changement, hein, soit le changement que tu vois dans le monde. Peut-être que toi aussi tu aimerais changer des choses, poser un regard différent sur la nature. Donc qu'est-ce que c'est que la nature ? Peut-être déjà commencer par définir pour toi ce terme. Qu'est-ce que c'est la nature ?
La nature pour moi c'est une matrice. Je veux dire, je me sens faisant partie intégrante de cette grande mère nature, donc je ne m'en dissocie pas, et pour moi ça change complètement effectivement le regard que j'ai sur la nature, parce que pour moi j'ai aucune envie de me battre contre, mais j'ai envie de vivre avec, en harmonie avec. Et l'autre regard sur la nature, c'est vraiment ça, c'est arrêter de lutter contre la nature, et pour un paysan c'est une vraie révolution par rapport à ce que culturellement j'ai appris à l'école d'agriculture, mais aussi en voyant tous les dans mon enfance tous les agriculteurs qui travaillaient autour de la ferme familiale.
Et qu'est-ce que tu penses toi de cette domestication de la nature aujourd'hui ?
Rien de bien bon, hein, parce qu'effectivement, qui dit domestication dit domination, et c'est vraiment ça qui me déplaît foncièrement. Moi, comme je le disais tout à l'heure, me sentant faire partie d'un tout, j'ai aucune envie de dominer, de maîtriser, de soumettre, mais effectivement, plutôt d'accompagner les forces de la vie. C'est comme ça que j'y trouve mon compte et que je me sens particulièrement bien là où je suis.
Alors, avant de découvrir ta place aujourd'hui, on va faire un saut dans le temps et on va revenir à Bernard Enfant. Parle-moi un petit peu de toi, de ton parcours et des expériences qui ont façonné l'être que tu es aujourd'hui.
Je suis fils d'agriculteur, donc j'ai vécu sur la ferme familiale et déjà complètement passionné de nature, j'ai passé mon enfance à courir la palisse, c'est-à-dire les haies du bocage Poitevin et Charentais. J'ai fait beaucoup de... on se déplaçait en vélo avec mes frangins, beaucoup d'observations naturalistes, j'ai de suite été très attiré par la nature sauvage. Et une ferme, une exploitation agricole, à l'époque, et encore aujourd'hui quand on le fait correctement, dans le sens où moi j'entends ce métier de paysan, eh ben c'est effectivement... C'est un laboratoire de sciences naturelles quoi qu'on a devant les yeux et auquel on peut puiser chaque jour des sources d'émerveillement tout à fait fabuleuses. Et voilà, et j'ai eu envie de prolonger ça en m'installant dans les Pyrénées. J'étais en Charente-Maritime à l'époque, et déjà à l'époque les dégradations de l'agroécosystème me faisaient peur. Et ce besoin de nature au sens naturaliste du terme, je le retrouvais pas du tout dans les activités agricoles telles que j'ai pu voir qu'elles se pratiquaient au lycée agricole, par exemple.
Mais tu l'as vu tout de suite, ça ?
Oui. Je sais pas pourquoi, mais oui, je l'ai vu tout de suite. Je me suis tout de suite senti en opposition avec ces pratiques-là. Sur la ferme familiale, ça se passait bien, mais mon père avait une certaine conscience des dégradations qui pouvaient engendrer l'agriculture. Si j'étais resté avec lui, il était prêt à passer en agriculture bio, donc il sentait bien ça. Tout seul, il l'a pas fait, mais s'il avait été accompagné, si j'avais repris la ferme familiale, il l'aurait fait. Sauf que la ferme familiale avait une dimension, c'était pas une grosse ferme, mais une trentaine d'hectares. Pour moi, c'était déjà beaucoup trop, ça correspondait pas du tout au type d'agriculteur que j'avais envie de pratiquer. Ce métier de paysan me permettait d'assouvir ma passion naturaliste au quotidien, tous les jours, en étant dedans, sans me poser de questions, de salaire, de voilà. C'est moi, mon père et mon grand-père m'ont appris que c'était un métier de liberté, le métier de paysan. Je voyais pas du tout ça dans l'évolution de l'agriculture telle qu'elle se profilait. Et voilà. Et je crois que ça c'est aujourd'hui un agriculteur, il est pieds et poings liés avec le Crédit Agricole. Basta, point final, quoi. Moi, sur une toute petite ferme, j'ai commencé avec 2 hectares, j'en ai transmis 9 à mon fils. J'ai jamais eu 1 centime d'euro d'endettement sur cette exploitation agricole. Et j'ai toujours pu vivre toutes mes passions grâce à l'autonomie que j'ai pu acquérir. Et donc là, je pense qu'il y a une vraie liberté. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu pour gagner ma vie quand j'ai voulu, comme je l'ai voulu. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais pourtant c'est une réalité. Ça s'est passé comme ça. Et tout mon parcours d'auteur et puis ensuite d'éditeur s'est nourri effectivement de ces expériences.
On va définir ce mot paysan parce qu'il a trop souffert, je trouve, dans l'esprit collectif.
C'est tout simple, hein. Le paysan, c'est quelqu'un qui vit dans un pays, donc qui se sent effectivement faire partie intégrante de ce pays. Et dans le pays, il y a la notion de paysage, il y a la notion de ressources, il y a toutes ces notions-là. Et pour que ça tienne la route, pour que ça marche, il faut préserver tout ça, parce que c'est notre capital, tout simplement. Et un paysan qui détruit le paysage, qui détruit son capital, bah, il ne mérite pas ce terme-là. Il mérite le terme effectivement d'exploitant agricole. Exploitant, quelqu'un qui exploite, oui, pour faire du fric, pour faire OK, là ça convient. Mais il ne mérite pas le terme de paysan, c'est clair. Pour moi, paysan, c'est vraiment quelqu'un qui vit au pays, mais qui l'envisage sur du long terme et qui est capable de laisser à ses descendants une terre au moins aussi riche que celle qu'il a trouvée et que mes aïeux à moi m'ont laissée.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Très vite, tu as vu les dysfonctionnements des systèmes de production en France. Est-ce qu'il y a du dialogue entre paysans ? Est-ce que quand tu vois un collègue qui a t'as envie peut-être de changer l'autre, peut-être lui dire « ouvre les yeux ».
Si je fais des bouquins, c'est parce que j'aime transmettre et j'ai envie de transmettre. On rencontre tous les cas de figure, bien sûr. Il y a des gens... Moi, j'ai fait pendant... Là, on est au Salon Marjolaine avec un public qui est conquis d'avance. Ils savent à peu près de quoi on parle, mais pendant une dizaine d'années, j'ai fait le Salon de l'agriculture en tant que représentant de l'association des Amis de l'Ortie, où on défendait à l'époque où c'était pas défendable les purins d'ortie, les extraits végétaux fermentés et tout ça. Et là, c'était des oppositions frontales. Effectivement, il y avait une incompréhension complète avec beaucoup de gens. Il y avait des gens qui comprenaient. Il y a toujours un pourcentage de gens qui comprennent, qui sont ouverts. Il y en a d'autres qui voient bien qu'ils sont dans une impasse, donc qui se posent des questions, qui se remettent en cause. Puis il y en a d'autres qui sont dans une impasse et plutôt que de faire marche arrière et de se dire, peut-être que je me trompe, ils s'enferment dans leur certitude parce que le système les y pousse, parce qu'ils ont des emprunts sur le dos. Pour plein de raisons socioculturelles qui sont trop longues à expliquer ici. Et ceux-là, ils préfèrent ne pas voir, ils préfèrent ne pas ouvrir les yeux. Ils pensent qu'il n'y a pas de changement possible, ce qui est une grosse, grosse erreur fondamentale. Et moi, effectivement, quand j'avais 20 ans, même avant, j'étais au lycée agricole de Sainte en Charente-Maritime, je devais avoir 17-18 ans. J'ai fait une première exposition naturaliste, puisque j'avais monté un club nature au sein du lycée agricole, qui dénonçait l'arrivée du maïs dans les marais. À l'époque, c'était ridicule. Tout le monde se foutait de notre gueule. Et pourtant, on a eu raison, puisque aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de marais dans beaucoup de régions. Ils sont complètement envahis par la monoculture du maïs. J'aurais bien aimé avoir tort, mais c'était complètement visionnaire, c'est il y a 40 ans.
Alors c'est bien, plus on discute, plus je me rends compte que tu as multiples facettes et multiples casquettes, dont celle d'auteur. Donc comment est-ce qu'on devient auteur ? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier de l'écriture et pourquoi tu t'es mis à écrire ?
Déjà, multifacette, j'imagine pas une vie avec une seule activité. Enfin, pour moi, voilà, on parlait tout à l'heure du métier de paysan. Un paysan, c'est quelqu'un qui sait tout faire. C'est quelqu'un qui est capable d'aller dans la haie, de prendre un bout de bois, de faire son manche d'outils. C'est aussi quelqu'un qui est capable de reconnaître une plante pour la manger ou pour en faire sa tisane. Voilà, un paysan, c'est quelqu'un qui vit son pays. Et j'ai horreur des spécialisations. Et pourtant, Dieu sait si certains sujets, je les possède bien et je les ai approfondis. Mais j'ai surtout pas envie qu'on me traite de spécialiste de l'ortie ou de je ne sais quel autre type de ou méthode ou je ne sais quoi ou travail ou vanier ou n'importe. C'est un ensemble de choses. Un individu, c'est un ensemble de choses. Il se construit sur un ensemble de choses. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important de toucher à tout. L'écriture, c'est un moyen de transmettre. Alors pourquoi l'écriture ? Au début, ça a été pour financer des voyages. Au début, j'étais photographe. Quand j'étais adolescent, justement, que je courais les palisses. à la poursuite des piafs, c'était pour faire des photos, c'était pour faire de la photo animalière. Et j'ai eu la chance d'accompagner des photographes de renommée, d'être leur boy, de les guider pour faire de la photo animalière en Charente-Maritime. Et ils m'ont ouvert quelques portes parisiennes pour vendre des photos. Et avant de m'installer paysan dans les Pyrénées, j'ai fait un peu de photo animalière. Et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, et 10-15 ans plus tard, après m'être installé paysan dans les Pyrénées, quand il a fallu valoriser ce potentiel que j'avais, j'étais complètement dépassé en termes de photos, parce qu'en 10 ans, c'était le début des années 80, il y avait une explosion fabuleuse déjà des techniques, du matériel et tout ça. Et donc j'ai pu le valoriser grâce à l'écriture. Et puis mon style d'écriture a plu, et de fil en aiguille, je suis passé de la pige à l'écriture de bouquins, et de l'écriture de bouquins au métier d'éditeur. Et aujourd'hui, j'aimerais bien passer à autre chose.
Ce que je ressens, c'est une certaine forme de fluidité. Quand tu fais des interviews, tu rencontres des gens qui parlent de prise de conscience. Donc à un moment donné, on change radicalement de vie parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas à sa place. T'as ceux qui ne se posent pas cette question. Mais pour toi, j'ai l'impression que tu n'as pas eu besoin de te la poser. Tout a été très naturel.
Ouais, tout à fait. Moi, j'ai eu l'impression, c'est une chance extraordinaire. Je dis toujours que je suis un privilégié, mais je le suis dans plein de façons différentes. Effectivement, je me suis pas vraiment, j'ai pas eu à me poser des questions. Les choses se sont toujours faites toutes seules, et toujours avec une certaine évidence. Donc, je n'ai absolument aucun mérite.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors, Kaizen, c'est un mot japonais qui annonce un changement, mais dans le bon sens. Donc, le changement, c'est de ça que j'ai envie de parler maintenant. Qu'est-ce que tu perçois sur le monde qui ne te plaît pas et que tu aimerais pouvoir changer ?
Oh là ! Je suis pas sûr que je me sente en mesure de juger le monde. Justement, tout ce qui peut être atteinte à l'environnement, j'ai beaucoup de mal à comprendre et à accepter effectivement qu'on soit capable de scier en permanence les branches sur lesquelles on s'assied les unes après les autres, quoi. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. On voit bien qu'on est en train de saccager un potentiel énorme qu'il y avait à une rapidité fabuleuse, quoi. Les choses s'accélèrent tellement vite que c'est un petit peu angoissant et inquiétant. Ça, j'aimerais bien que ça change, mais changer ces choses-là, le seul moyen que j'ai, moi, c'est par l'exemple, c'est de montrer effectivement qu'on peut faire autre chose, que les alternatives, elles existent, qu'elles sont pas absurdes, que même si on nous marginalise, la marginalisation, c'est toujours les autres, c'est jamais soi qui cherchons à nous marginaliser, c'est toujours la société qui marginalise certains individus. Bah, tant pis, je veux dire, si on le vit bien, on sera jamais, ça peut très bien passer. Puis montrer qu'on peut faire autre chose, je me rends compte que c'est quand même une force tout à fait importante. C'est plus que symbolique, quoi. Et par l'exemple, on arrive quand même à créer des tas de vocations et à faire en sorte que il y a un vrai mouvement. Je sais pas si c'est une lame de fond, peut-être pas, mais il y a un vrai mouvement pour changer un petit peu de paradigme. Mais ça, c'est important.
Donc être le changement, encore une fois, qu'on souhaite voir dans le monde.
Oui, je pense que déjà, ça permet d'être bien avec soi-même. C'est pas si mal.
Donc toi, tu montres l'exemple dans le sens où tu es, voilà, c'est pareil. Que ce soit ta vie perso ou professionnelle, tu es ce que tu vis et tu vis ce que tu es.
Bah exactement. Moi, j'ai toujours dit que je ne savais pas ce que c'était que le travail. Alors que j'en fais peut-être 12 à 15 heures par jour. Mais j'ai jamais eu l'impression de travailler.
Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées justement avant? Tu parlais de marginalité. Quand on essaie vraiment d'être intègre, c'est peut-être pas facile non plus. Il y a peut-être aussi des difficultés auxquelles on va être heurté.
La principale difficulté, je pense, et selon les sensibilités des gens, ça peut être un vrai handicap, mais pour moi, ça m'a jamais dérangé, c'est le regard des autres. Très, très clairement. Alors, pourquoi ça m'a pas dérangé? Parce que je pense qu'autour de moi, il y avait un petit noyau de gens solides qui faisaient que voilà, on était droit dans nos bottes, on savait ce qu'on voulait, on n'avait pas à rougir de ce qu'on faisait. On a toujours bien vécu, on n'a jamais rien demandé à personne. Économiquement, notre truc a toujours tenu la route. Très vite même, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on soit effectivement marginalisé, parce que faire de la polyculture élevage avec 2 hectares, quand j'ai démarré en 1980, c'était complètement anachronique, quoi. Personne pensait ça viable. Or, c'est à partir de ce petit noyau d'exploitation agricole que j'ai créé toutes les richesses qui sont arrivées derrière. J'ai jamais fait d'emprunt au Crédit Agricole, j'ai laissé une exploitation agricole à mon fils avec 0 centime d'euro d'endettement. Bon, j'avais 9 hectares là quand je lui ai transmis la ferme en 2006. Mais on voit bien que c'est quelque chose, voilà, c'est pas farfelu du tout, c'est quelque chose qui tient la route, qui marche.
On peut trouver un modèle économique viable dans une démarche où on associe ce qu'on a et ce qu'on fait.
Complètement, puis qui crée des richesses, qui m'a permis de monter une maison d'édition. Je sais pas ce que ça durera, mais en attendant, elle est là, ça fait 20 ans que ça dure. Qui aujourd'hui fait encore vivre 5 personnes, donc voilà, il y a... Économiquement, effectivement, ce sont des choses qui sont... Et là aussi, sur un choix économique où j'ai toujours refusé les systèmes de diffusion classique qui sont des gros dévoreurs de marge et qui font que tout le monde se rémunère à 30% sur le prix d'un livre, sauf l'auteur et sauf l'éditeur qui a un maximum 15%. Alors quand on fait de la vente directe, on inverse complètement les pourcentages et l'éditeur se retrouve avec 60-65% de son produit, quoi. Et il récupère la valeur qu'il a créé, qu'il a généré. C'est pas le diffuseur qui lui bouffe tout ce qu'il peut gagner, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Mais j'ai tout appris. Moi, je suis pas du tout éditeur. C'est un accident. Donc, j'ai été éditeur pour diffuser mes propres bouquins, puisque j'étais auteur-éditeur. D'abord de l'auto-édition, ouais. Et effectivement, j'ai appris mon métier d'éditeur grâce au retour que j'avais du public, de mes lecteurs, qui venaient me voir, qui venaient me dire « ça c'est bien, oh, on aurait aimé que ce truc-là, vous le traitiez plutôt comme ça, on aimerait plus de choses comme ça, comme ci, comme ça ». Et c'est comme ça que j'ai progressé.
Alors qu'est-ce qui te tient aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu continues l'aventure de l'édition? Quel est le sens que tu donnes à cette aventure?
Ah ben, il est tout simple, c'est pour m'ouvrir d'autres portes et pour faire autre chose le plus vite possible. Pour moi, c'est un parcours qui s'inscrit dans la continuité. Donc, bah, j'ai l'impression que ce que je vis aujourd'hui, effectivement, c'est un beau prolongement de ce que je vivais quand j'étais enfant. Et certainement que ce vers quoi je vais aujourd'hui, justement, c'est plus de vie au contact de la nature, parce que j'ai quand même fini par le travail d'écriture quand on est longtemps derrière un ordinateur, ce qui n'est pas systématiquement mon cas, loin s'en faut, mais bon voilà, ce qui est quand même un petit peu le cas. Ben effectivement, on finit par se couper de ce qui est le moteur premier, c'est-à-dire d'être au contact de la nature, de vivre dans la nature comme j'aime le faire, d'aller à la rencontre de la faune, de la flore et tout ça. Donc ça, je pense que c'est vers ça que je vais réorienter un petit peu.
Donc on a là sous les yeux le catalogue 2015 des éditions du Terran. Peut-être juste me parler d'un ouvrage que tu aimes bien et me dire pourquoi.
Un ouvrage que j'aime bien, ben peut-être Art de vie sauvage, que je viens de faire avec Kim, là, mon ami avec qui je vais m'immerger dans la nature sauvage justement et profiter pleinement, ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est vrai que c'est un petit peu ça ma recherche aujourd'hui, c'est-à-dire plus de nature, comme si j'en avais pas eu assez, comme si j'en redemandais toujours un petit peu plus, quoi. Et ce livre, ben, il est sympa parce qu'effectivement, il fait le lien entre tout ce gros besoin d'autonomie qui permet d'acquérir notre liberté, une vraie liberté intellectuelle, morale, culturelle aussi. Donc, ouais, je trouve que c'est sans doute aujourd'hui. Bah, c'est le petit dernier aussi, donc on a toujours une préférence pour le petit dernier, donc. Ouais, c'est peut-être vers celui-là que je me tournerai.
Merci Bernard.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.